Bienvenue dans Résonance sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui une femme qui vit la danse, qui prend la danse comme une façon d'échanger, de partager, de se mouvoir, de vivre notre fragilité humaine. Une femme pour qui la danse est une manière d'explorer la rencontre avec l'autre, d'aller à la rencontre des autres. Une femme qui veut montrer que tout le monde peut danser, qui désire donner accès à l'espace chorégraphique tout en permettant à la danse de circuler là où on ne l'attend pas d'habitude, où on n'a pas l'habitude de la voir. Une femme qui cherche, réfléchit, qui s'interroge sur ce qu'est la danse, là où elle commence, sur ce qu'elle met en jeu, comment je marche, comment je danse, comment est généré le mouvement. Aujourd'hui, dans Résonance, nous avons le plaisir de recevoir la chorégraphe et danseuse Émilie Borgo. Résonance, Alain Goudard, une émission mise en onde par Simon Deborne. Bonjour et bienvenue Émilie Borgo.
Bonjour Alain.
Merci d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir passer justement cette heure ensemble et de converser justement déjà un petit peu dans les propos que j'ai choisi de mettre justement en ouverture, puisque la danse, savoir son expression, sa place, comment le corps dans ses moindres mouvements vient aussi... faire part des émotions, comment aussi les silences parlent à travers notre corps, que ce soit sur scène, dans la rue, que ce soit chez l'habitant ou bien sûr dans la nature. Puis peut-être, suite à ces petits mots d'introduction, si vous le voulez bien, on peut revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière, pour comprendre un peu comment cette prise de conscience, cette envie aussi, ce besoin de mouvement, de corps, de ce qu'il raconte, peut dire ou pas, de manière visible ou invisible, a pris naissance finalement chez vous, et puis de décupler cette démarche qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. C'est un bien long
chemin. C'est un long chemin à raconter, mais qui est super et qui vient faire un flashback à l'envers. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses, mais il y a peut-être mon enfance avec la relation à la nature, au sport, à l'environnement, à un papa qui est très militant pour le sport pour tous et très engagé aussi. Donc
ça a aussi beaucoup de force et de sens.
Énormément. Et puis la danse qui est là depuis que je suis toute petite, qui m'accompagne, qui est à côté de moi et que j'atteins par différentes entrées, différentes pratiques. Je m'engage un peu plus vraiment clairement dedans quand je suis jeune, toute jeune adolescence vers 11-12 ans, où là vraiment ça devient une part très importante de ma vie et ça ne s'arrête pas. Mais en parallèle, je mène quand même des études d'ethnologie et d'anthropologie. Je deviens chargée d'études en ethnologie. Je refuse un poste en CDI pour devenir vraiment danseuse professionnelle. Mais je pense que ce sont deux pratiques qui ont toujours dialogué en moi.
Oui, très fortement.
Très fortement. Voilà. Et qui prennent, plus j'avance dans l'âge, plus je veux dire que ça prend du sens. En fait,
certainement, oui, qu'elles ont été aussi, ces études-là, très, très importantes. Même si tout ça venait nourrir un cheminement progressif, mais que finalement il y avait une vraie cohérence justement à aller dans ces études-là pour pouvoir aller ensuite vers la danse.
Voilà, tout à fait. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse vraiment à la question de l'origine de la danse. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête et à quel moment on peut considérer que quelqu'un, un tout petit enfant ou une personne très âgée ou quelqu'un qui pense ou qui se meut différemment danse.
Oui, et ça me paraît une question fondamentale, parce qu'on a les représentations aussi de la danse, de qu'est-ce qu'elle est pour les uns et pour les autres, qui rentrent dans des schémas aussi de représentation, mais en réalité, la mise en mouvement des corps, le mouvement, on ne sait pas, finalement, il peut être très infime, pensons à des personnes même souffrant d'Alzheimer, il reste aussi, là aussi, la prégnance du mouvement, et que ça vit toujours, et que ça bouge toujours, et que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à explorer et à chercher, en tout cas.
Absolument, je pense qu'elle est constituée constitutif de la vie, en fait, c'est tout ça. Simplement, la danse. Donc, on peut toujours aller la rencontrer à chaque instant, à chaque moment, et venir la convoquer aussi.
Et ça, je trouve ça assez intéressant, venir la convoquer. Ça, c'est quelque chose aussi qui me paraît extrêmement important. Il y a aussi le fait... que vous allez croiser aussi des disciplines, enfin, on parlait des études, hein, mais en même temps, aller vers des pratiques de danse d'ailleurs africaine, d'aller, si on va vers le buto, si on va... Voilà, vous avez eu envie aussi, finalement, dans cette idée d'exploration, et peut-être que les études ont servi aussi à ça, de se dire, tiens, à l'écoute d'autres manières de faire, d'entrer en mouvement, et que ça, différentes cultures partagent aussi à des degrés très différents aussi, cet engagement dans la danse, cet engagement dans le corps, plus que quelque... Enfin, on a nos manières à nous, mais... Il y a plein d'autres manières d'être dans la danse aussi, et dans le corps. En tout
cas. C'est peut-être rétrospectivement qu'on peut l'analyser comme ça, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, on peut considérer que je suis autodidacte dans le sens où je n'ai pas suivi un parcours spécifique, mais de multiples parcours. Et puis aussi rencontrer, on en parlera peut-être après, le monde de la musique improvisée. Mais pour la danse, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de curiosité d'aller pratiquer, rencontrer de multiples... Enfin, la danse contemporaine d'abord, mais aussi de multiples formes de danse, dont la capoeira, la danse buto, qui est effectivement tirent leur source dans des histoires qui sont aussi politiques, oui. En fait, à chaque fois.
Voilà, et là, on retrouve l'intérêt du commun, du collectif, du sociétal, qui redevient très fortement imprimé, ces manières de s'exprimer à travers le corps et la danse, où on voit quelquefois, dans nos sociétés peut-être plus occidentales, où on réprime un petit peu plus la présence du corps, alors que dans... C'est pour ça que ça rejoint aussi le politique, quelque part. Dans certaines autres sociétés, au contraire, ça fait partie des fondamentaux qui doivent être hyper présents et au contraire, mis en avant.
C'est ça. Et l'art et la vie sont assez liés, en tout cas. Dans le... ouais.
Complètement. Résonance sur Radio B. À travers la danse, créer des passerelles entre l'art et la vie dans une ouverture à tous. Rencontre avec Émilie Borgo. Nous venons d'entendre un grand monsieur aussi de l'improvisation, enfin deux grands monsieur aussi, Bart Phillips, donc à la contrebasse, Gyorgy Kurtak Jr. aussi, au dispositif électronique en live, tous deux réunis sur un disque très chouette que je vous invite à vraiment découvrir, à vous plonger aussi dans ces ambiances sonores. Et là, nous avons pu découvrir ensemble Two by Two. Voilà, c'était une entrée en matière, mais une entrée en matière aussi qui nous concerne aussi dans ce parcours avec Émilie Borgo, parce que justement dans votre aventure, on parlait de la danse, mais aussi avec les musiques improvisées et bien sûr tout un certain nombre d'improvisateurs. Bart Phillips aussi a fait partie de vos rencontres. Et à quel moment cette rencontre s'est faite avec Bart Phillips?
Alors je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais, ouais. Mais les plus anciennes rencontres datent du collectif Ishtar, de moments où il y avait des temps de rencontres musique et danse, et où le collectif invitait des musiciens quand même de grande renommée à venir pratiquer avec nous et performer avec nous. Donc ça a été assez fondateur. Et puis je l'ai aussi rencontré à Grenoble avec Julian Hamilton sur un stage assez long aussi. Puis après je l'ai recroisé à plusieurs reprises, on a pu reperformer ensemble. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, dans sa relation à l'écoute et aussi à la place du musicien sur un plateau aux côtés d'un danseur, a été très très... Enfin, m'a transmis beaucoup de choses.
J'imagine. Bah, après, on sait ses collaborations avec Béjart, on sait ses collaborations avec Caroline Carlson aussi pendant très longtemps. Enfin, voilà, cette ouverture maximale qu'il a pu avoir. On a eu aussi l'occasion, nous aussi, de le rencontrer dans des temps d'improvisation avec les Michel Doléda, Alain Joule, toute cette équipe aussi de musiciens autour de projets musicaux. Et c'est vrai que c'est une grande qualité d'écoute en même temps. Puis cette subtilité quand on écoute aussi le son de sa contrebasse, c'est pas de la contrebasse véritablement qu'on entend, c'est vraiment la matière son individuelle. Et en même temps, quand on parlait effectivement danse, mouvement, on sent que aussi c'est en mouvement, son rapport à l'espace, son rapport au mouvement, dans la manière de jouer, le timbre qu'il donne justement à cette contrebasse et à la musique qu'il joue, nous emmène aussi dans ces directions-là.
C'est sûr. Et puis oui, il a vraiment une capacité d'ouvrir l'espace avec le son, c'est ça, qui est très très forte et qui rejoint la danse du coup.
Et c'est ce qui est d'ailleurs très intéressant dans ce disque, dans cette rencontre avec Gyorgy Kurtak, qu'il faut rappeler qui est le fils aussi de ce grand compositeur aussi. Donc il est aussi dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, on sent que cette rencontre des deux, même si l'un joue avec des dispositifs électroniques en direct, et la rencontre avec la contrebasse et la manière de jouer les deux ouvre complètement aussi ces espaces et le mouvement. Alors, si on continue, Émilie Borgo, de continuer à approfondir la démarche, votre manière d'aborder, de pratiquer la danse, peut-être on peut essayer de s'interroger finalement sur cette question, quand, comment la danse se fait jour. Alors, c'est une bien grande question, vous me direz, hein, mais comment, peut-être selon votre point de vue, savons-nous que nous dansons? Qu'est-ce qui nous permet de passer de l'état de non-dansant à l'état de dansant? Je sais que c'est des endroits, en tout cas, qui pour vous sont forts et importants, mais voilà, comment vous sentez ça, vous, justement?
Alors, justement, je viens de terminer une recherche avec Laura Fanouillet, qui est chercheuse en danse à l'Université de Grenoble, associée à l'Université de Grenoble, sur l'origine de la danse chez le tout petit.
Alors oui, effectivement.
Et on a décortiqué quelques heures de vidéos de danse des tout petits pour aller chercher pour nous où commencerait la danse. Et on a considéré que c'était le moment où la personne qui se mettait en mouvement avait un retour de perceptif. C'est-à-dire où elle avait une sensation qui peut être un balancement, qui peut être un tapé, qui peut être... En fait, toutes les choses qu'on va retrouver dans les danses des peuples premiers ou même dans le yoga en termes de mouvement, on va les retrouver chez ces danses-là, chez ces tout petits danseurs. Et on a commencé à réaliser des planches qui sont un outil qu'on peut transmettre et qui nous aide aussi pour aller chercher la danse avec plein de publics différents. On est au tout début de cette recherche.
Oui, parce que ça ouvre des manières de regarder. Là, c'est la petite enfance, mais de regarder un autre adulte, un adolescent, et de voir là aussi où où ça commence.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait que là, on sent qu'il est en train de sentir par la réception, par l'écoute, par le sensoriel,
voilà.
À un moment donné, d'initier le mouvement dansant.
Ouais, absolument. Alors après, on peut rajouter l'imaginaire, mais ça, c'est plus dur à mesurer et à considérer, parce que c'est vrai
c'est
que
clair.
C'est aussi ce qui va faire le petit truc en plus, entre guillemets, qui fait que quelque chose s'ouvre. Mais en tout cas, ce point de départ sur le... qu'est-ce que je sens, si je tape du pied par terre, j'ai un retour de sensation du sol.
C'est clair. Et puis là, la gravité est d'autant plus importante dès qu'on s'occupe de son corps. Et c'est par ces prises de conscience à un moment donné que... Et d'ailleurs, même quand on est dans la parole, très rapidement, le mouvement vient. Et qu'elle soit silencieuse, qu'elle soit autre, là, on sent tout de suite ce moment d'impulse qui apparaît. Et du coup, effectivement, c'est hyper intéressant de se dire que voilà, on cherche aussi, on recherche à identifier et à comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là d'impulsion, naissance de l'impulsion.
Voilà, on a moins étudié, mais je pense que ça pourrait être une suite, la question de la relation aussi, de comment est-ce qu'on peut s'entraîner ou se co-entraîner dans la danse. Mais je pense que c'est aussi une ressource importante.
Oui, puis ça nous intéresserait dans le sens où on peut aller explorer quel autre aspect, la rencontre avec l'autre, et que du coup, on sait bien que pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait mise en mouvement des deux. Et donc, du coup, de voir qu'est-ce qui se passe quand l'un commence à rentrer dans le mouvement, comment l'autre perçoit, ne perçoit pas, s'ouvre au mouvement de l'autre, entre dans le mouvement de l'autre. Bah, toute cette phase très délicate d'ailleurs pour essayer de rentrer dans l'échange où chacun est... On peut garder encore les choses... quoi qu'il en soit, physiquement, intellectuellement, sensoriellement, est obligé de se mettre en mouvement s'il veut essayer de rencontrer l'autre qui est en face.
Voilà, et là, on rencontre la question de l'accordage aussi. Comment est-ce qu'on s'écoute, comment est-ce qu'on s'accorde ?
Extrêmement important, de l'accordage, et surtout, enfin, en danse comme dans d'autres, l'ajustement, là, on rentre dans cette question-là qui devient encore un autre domaine d'exploration et de réflexion. Donc, c'est vrai qu'en même temps, quand on vient de dire aussi un petit peu tout ça, on sent qu'on va loin, quoi, finalement. On va assez loin dans ce que peut-être à la fois l'humain, ce que peut-être sa propre fragilité aussi, sa vulnérabilité aussi. Et est-ce que danser nous permettrait, selon vous, et puis peut-être dans ce que vous cherchez au quotidien, de toucher au quoi d'autre de l'humain ? Est-ce que ça nous amènerait à quelque part encore au-delà d'eux ?
Bien sûr, là on est parti d'une question sensorielle, mais je pense qu'on peut aller, on peut monter dans des dimensions plus spirituelles entre
c'est
guillemets
ça.
Aussi, parce que c'est aussi se relier à plus large que soi, danser. Donc évidemment, c'est un endroit où on peut avoir une attention, dédier quelque chose aussi à quelqu'un. Là, je suis très influencée par une chorégraphe qui s'appelle Anna Halprin, aussi une chorégraphe américaine, qui vraiment met en acte et ritualise, entre guillemets, la question de danser et de pourquoi on danse et à chaque moment.
Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, je voulais aussi convoquer une autre chorégraphe, Emma Biget, qui évoque, elle aussi... pour sa part aussi, qu'est-ce qu'est la danse ? Et elle dit ceci, pour elle, la danse commence quand mes mouvements se tissent à ceux des autres, quand ils perdent la marque de ce que je crois avec obstination être ma propriété, mon action, pour devenir du commun. Vous vous y retrouvez aussi dans cette manière d'aborder les choses et de les nommer.
Tout à fait, et ça, enfin, on en parlera peut-être après, mais ça, j'ai eu une rencontre assez déterminante avec des danseurs marocains, donc avec qui je collabore depuis maintenant de nombreuses années, et une des choses qui m'ont vraiment enseigné, c'est le sens du commun. De comment, parce que je pense que dans leur culture, le sens du commun est là avant le sens de l'individu.
C'est ça.
Et quand on travaille ensemble, j'adore travailler avec eux parce qu'on est vraiment dans cette rencontre entre nos deux cultures et comment on s'ajuste et danser ensemble, c'est créer du commun, c'est sûr.
Mais absolument. Et c'est bien ce à quoi aujourd'hui on sent de plus en plus comment il y a une désintégration, en tout cas de la relation sociale, dans ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Et c'est vrai que même si ces sociétés, certainement, elles aussi rencontrent des difficultés, elles ont quand même un socle. Elles ont ce socle. Si on prend même l'Afrique au sens large dans toutes ces différentes composantes, mais effectivement, si on est plutôt vers la région du Maghreb aussi, il y a ce commun, ce collectif Et on voit bien au niveau des familles comment elles sont constituées. Et c'est ça qui résonne en premier, avant l'individu lui-même, mais c'est son appartenance à ce collectif. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ça prend une autre dimension.
Absolument.
Et effectivement, la réflexion que nous propose Emma Biget voilà, nous amène à travailler cette question, cette notion du commun. Alors après, on pourra la retrouver sur un point de vue philosophique. Et là, il y a un certain nombre de gens. Je pense à Jean-Luc Nancy, je pense à Édouard Glissant, je pense à Jacques Rancière par certains aspects, voilà, qui nous rappellent aussi ou questionnent nos comportements sociétaux d'aujourd'hui pour essayer de comprendre et nous remettre, peut-être en tout cas nous inviter à réfléchir sur ces questions assez fondamentales si on veut essayer de retrouver le sens de pourquoi nous sommes ensemble, de comment être ensemble, de comment être ensemble à plusieurs. Ça, c'est Jean-Luc Nancy qui formule aussi de cette manière-là, mais je crois qu'il y a vraiment ça. Alors, vous parlez de clin d'œil et on parlait justement du Maroc. Alors, je vous propose d'écouter justement deux pièces, nous en parlerons après, mais qui sont issues pour ces deux-ci des traditions berbères du Maroc. Résonance sur Radio B, à travers la danse, créer des passerelles entre l'art et la vie, dans une ouverture à tous. Résonance reçoit Émilie Borgo. Alors, on vient de faire un petit clin d'œil justement à vos collaborations marocaines, notamment avec une compagnie Cold Jam, hein, qui est à Casablanca. Et je crois que ça fait à peu près depuis 2011 que vous avez entrepris cette collaboration. Donc là, on a pu entendre deux extraits issus de thèmes de la tradition berbère du Maroc. Le premier s'intitulait « Qui tire un coup de fusil ?» et le second « La fleur se plaint ». Et ces deux œuvres, là aussi, on parlait du commun, justement, là, on fait l'objet d'une rencontre, ont été interprétées ici par l'ensemble Canticum Novum, avec Emmanuel Bardon, et ils avaient associé trois musiciens musicienne de tradition japonaise. Et donc, c'est aussi ça qui est très beau, c'est qu'ils tissent une histoire, des liens ineffables autour de l'emblématique route de la soie qui va de Venise à Nara en passant par Constantinople. Et ils nous entraînent justement à tout ce cycle de voyage, de mouvement, là aussi, entre toutes ces populations, toutes ces cultures. Donc voilà un disque qui a été produit par le CCR d'Ambronay. Et puis, on l'évoquait aussi avec Émilie Borgo, puisqu'on parlait de la petite enfance, de la naissance du mouvement que le CCR d'Ambronay a effectué pendant 3 années, en tout cas avait tissé comme objectif de travailler autour de la petite enfance. Et c'est vrai que vous y avez aussi participé, Émilie Borgo, avec le CCR.
C'est dans ce cadre-là qu'on a pu mener notre recherche-action autour de la petite enfance et des premières danses chez les tout-petits.
Voilà, donc,
avec Respire, une pièce en danse et harpe destinée à la toute petite enfance aussi.
Voilà, aussi important de voir aussi les liens et puis voir aussi comment différents acteurs aussi du territoire de l'Ain, hein, se penchent aussi sur ces questions. Et autant est précieux aussi d'avoir un centre culturel de rencontre dans ce territoire qui, au-delà de la diffusion aussi de la musique ancienne, puisque c'est son registre principal, s'intéresse à une multiplicité aussi d'actions, de recherches, de pédagogie, de public, et puis voilà, s'intéresser justement au mouvement, à la danse, à la petite enfance, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, on continue notre parcours, Émilie Borgo, bien sûr, et peut-être on arrive à un autre strate. Là, on a parlé de 2011, alors on vient un petit peu en arrière, mais il est important qu'à un moment donné, dans ce parcours, dans cette rencontre avec la danse, dans ce désir d'aller dans tout ce que nous avons commencé d'évoquer au début de cette conversation, ben, peut-être il y a l'envie aussi de créer une compagnie, en tout cas de pouvoir réunir des gens avec qui vous allez pouvoir poursuivre, accentuer. C'est un peu de ça, l'envie de pourquoi créer une compagnie.
Oui, tout à fait, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais donc membre du collectif Ishtar, qui était un collectif de musiciens. Nous étions très nombreux à l'époque, presque 25-30, et j'avais quand même un très grand désir de monter des projets dans des directions assez précises. Et donc c'est suite à ça que j'ai fondé la compagnie Pasaros pour vraiment pouvoir développer des projets plus personnels.
C'est ça. Et là, du coup, c'est sûr que va commencer de se développer des directions que vous allez insulter. Il y a toujours aussi l'idée, quand on dit, vous le disiez tout à l'heure, que la danse, d'aller aussi vers les gens, justement, hein, d'aller vers ce commun. À un moment donné, dans la structure aussi, vous allez aussi mettre en œuvre des situations de danse dans des cadres différents, pas seulement en urbain, mais aussi dans d'autres villages, dans d'autres directions. Donc ça aussi, la volonté, c'est une manière forte aussi de l'inscrire dans la compagnie, d'aller vers les gens pour danser. C'était pas uniquement de la production pour de la production, mais quand même ce fil rouge, il est quand même extrêmement important chez vous.
Il est très très essentiel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on apprend des gens qu'on rencontre, on crée à partir de ces rencontres-là et on crée des choses pour eux. Et c'est vrai qu'on a aussi envie que les œuvres qui sont produites aillent à leur rencontre. Donc il y a tout le temps un mouvement de dialogue entre les gens, les territoires et puis notre univers artistique. Oui.
Et ça devait être aussi, j'imagine, très intéressant de voir comment peut-être des gens d'un village ose, si je peux dire, franchir ou ose le pas de se mettre en mouvement d'une autre manière de peut-être qu'il ne l'aurait pas pensé et de découvrir finalement que, ah ben oui, peut-être je peux aller là, peut-être que je peux, au-delà des schémas de représentation qu'on peut tous avoir de comment le corps se met en mouvement, où on se moue les uns les autres, et quelquefois il y a des peurs, des énormément qui... Je dirais castre aussi un petit peu nos modes de relation, justement, parce que voilà, et ça doit être très intéressant, j'imagine, pour vous aussi, d'observer, de voir et de travailler à partir de ces de cela.
Ah, c'est sûr, à partir de toutes les personnes que j'ai rencontrées, je pense qu'ils sont dans soit différents types de fragilité ou différentes spécificités dans leur corps, dans leur manière de penser, de voir le monde. Moi, j'ai toujours été fascinée par la richesse de justement de perception de chacun, et j'ai appris avec ça, et je continue à apprendre. Et à trouver merveilleux d'aller convoquer la poésie de chaque personne, quelle que soit sa diversité, sa spécificité. Et ça, c'est vraiment ce qui me fascine.
Et voilà, c'est vrai que, je crois, pour faire écho sur un autre point de vue, mais si on prend le terme de chorégraphe ou chorégraphié, qui pourrait dire, oui, c'est moi qui pense, c'est moi qui mets en ordre, etc. Et on voit bien que ça émane d'une autre démarche pour votre part. Mais si on le reprend sur un point de vue étymologique, chorégraphié vient aussi de choros, en grec. Hein, et si on parle de choros, on parle aussi de chœur. Donc on peut parler de chœur théâtralisant, portant la parole, mais aussi de chœur dansant finalement. Et que là aussi, et on voit bien que le choros, dans le théâtre antique, c'est aussi affaire collective. Et là, on se rejoint effectivement sur comment justement on arrive à faire sens, on arrive à faire le commun justement au travers de la danse, et comme quoi c'est important aussi dans la démarche, quoi, finalement. Et je crois que pour Passaro, c'est essentiel, ça.
Absolument, parce que nos processus de création sont collectifs. La manière d'écrire la danse est collective. Et elle se fait toujours, même avec les équipes professionnelles, elle se fait toujours ensemble.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où on va proposer des modalités que chacun peut s'emparer et explore des choses? Comment vous procédez peut-être un peu sur ce registre-là?
Par exemple, là, on est en train de préparer une création pour 2027. On est à l'origine de cette création, là, avec un collectif qui s'appelle MA, donc qui veut dire l'espace entre, qui réunit des danseurs professionnels avec des corps de grande diversité, on va dire. C'est Lila qui est en fauteuil roulant, enfin, il y a différents, mais ce sont tous des artistes professionnels. Mm-hmm. Et là, on a commencé par des rencontres, alors où moi je suis venue avec quelques propositions, mais aussi j'ai demandé à chacun de pouvoir insuffler des propositions. On s'écoute, on partage, et de là, on a commencé à se dire, bah tiens, suite à cette rencontre, il y a telle ligne qui se dessine. Là, dans cette direction, on peut commencer à y aller. Et à partir de là, on va écrire. Mais ça sera vraiment une forme de composition et d'écriture collective.
Voilà, je pense que c'est important pour nos auditeurs et auditrices de bien saisir aussi justement l'enjeu de la démarche, et qu'il ne s'agit pas simplement de venir, j'ai mes idées, je vois comment je peux chorégraphier les choses et calquer finalement des choses sur... pour les gens, dans des manières de faire, mais au contraire, c'est justement chercher, expérimenter, explorer avec eux pour que se dessinent, comme vous l'aviez très bien dit, après des lignes que tout le monde partage et sur lesquelles chacun va pouvoir aussi aller. Ça me permet aussi de faire encore écho à Emma Biget, parce que je trouve que finalement on évoquait cette difficulté aussi qu'on peut rencontrer aussi dans nos sociétés où les représentations sont fortes, notamment pour les corps, quels que soient les individus. Et elle évoque aussi ceci justement à propos des plus fragiles, et elle dit cela: échouer à respecter les conventions de la motricité, c'est ainsi s'exposer à n'être pas considéré comme faisant partie du monde, c'est légalement ou moralement être considéré comme une personne mineure. Fin de citation.
Alors là, ça résonne complètement avec des choses qu'on va défendre, et puis je pense très très fort à Lila Derridge qui vraiment défend sa position de danseuse et est une danseuse absolument fantastique, mais elle a dû le prouver et continue à devoir le prouver parce que c'est une danseuse qui est sur une chaise, enfin sur un fauteuil roulant. Évidemment, elle va au sol, elle fait plein de choses, mais immédiatement, on va avoir du mal à la considérer comme c'est une ça. Danseuse professionnelle, alors qu'elle est réellement professionnelle, reconnue qu'elle enseigne au conservatoire à Paris, et que, mais elle a dû se battre pour prouver...
Voilà, et on voit bien encore aujourd'hui hein, qu'avec le poids des images, avec le poids des représentations, en plus de celui qui est autre... Qui est différent, que du coup le regard tout de suite catégorise, interprète, juge, place à certains endroits, et aussi cette difficulté quand même à reconnaître que l'autre peut saisir aussi des espaces de parole autres que ceux dans lesquels on l'attend ou qu'on l'enferme dans son étiquette, et que là il y a une vraie difficulté, je trouve aussi aujourd'hui, à faire casser ces barrières de manière de regarder, finalement.
Absolument, on a un vrai enjeu, ben là, à nouveau politique,
tout à fait.
pour laisser Absolument. Émerger une place de citoyen à chaque personne, chaque individu, et aussi pouvoir considérer sa richesse et sa valeur.
C'est ça. Et là, on voit, et vous avez raison, vous avez utilisé le mot « combat » par rapport à cette jeune femme, et je crois que c'est vraiment de cet ordre-là encore aujourd'hui, de l'ordre du combat, et que du coup, là, il y a quelque chose d'assez essentiel dans ce que fait la compagnie Passaros, on va y venir dans quelques instants aussi, essentiel aussi dans ce que peut être un temps fort comme les irréguliers. Et peut-être pour résumer un tout petit peu dans ce qu'on vient d'évoquer par rapport à la compagnie Passaros, finalement il y a un peu des axes un peu importants. Bien sûr, la création, on vient d'en parler dans la manière de comment insuffler ce travail de création avec différentes personnes. L'action culturelle aussi, pour vous, est quelque chose d'important. Et puis, bien sûr, la programmation, parce que effectivement, montrer, imaginer, initier des créations, c'est important. Alors, je dirais peut-être que ces volets qui sont déjà des fondamentaux, c'est ce qui va un petit peu contribuer à se dire, tiens, un temps fort comme les irréguliers, c'est peut-être important de faire exister ça ici, dans un territoire comme celui de, à la fois de la cité, on va dire burgienne, mais je dirais aussi un petit peu plus largement dans ce territoire qui est le département de l'Ain. Il y avait aussi cette volonté de créer des synergies, des rencontres, j'imagine, un petit peu toutes ces envies aussi.
Absolument, il est vraiment là, oui, pour créer des rencontres, pour donner à voir aussi des œuvres qui peut-être ne seraient pas vues ici sur ce territoire-là.
Oui.
Voilà, aujourd'hui la danse, elle est un petit peu moins vue et un petit peu moins représentée qu'il y a quelques années, donc on essaye de défendre cet espace-là. Et puis donner une place aussi à des créateurs qui n'ont peut-être qu'on va moins voir sur des scènes nationales ou sur des espaces plus prestigieux, mais qui ont un propos absolument fantastique
pertinent.
Et pertinent avec qui vont nous provoquer des émotions artistiques assez intenses.
Oui, ça je crois aussi, et ça me paraît extrêmement important, que la compagnie Passaros et votre démarche donnent cette possibilité. Comme vous le dites, la danse, à un moment donné, elle a eu une présence importante, elle l'a, mais quand même, on a plus de difficultés aujourd'hui à pouvoir faire voir, rendre présent aussi toutes ces démarches, et c'est extrêmement important d'avoir un temps fort comme celui-ci. Peut-être, justement, quand on parle de cette nouvelle édition, alors on va déjà rappeler le calendrier, elle démarre le 13 novembre, enfin elle a démarré le 13 novembre, et puis du coup elle va se terminer le 3 décembre prochain. Donc du coup ça laisse aussi un temps pour chacun et chacune, et on peut vous inviter, chers auditeurs, auditrices, à vous laisser aller, à aller découvrir, à tenter, et même à faire, parce qu'il y a des moments donnés, vous pouvez avoir des moments participatifs, on pourra en parler, il y a un bal chorégraphique à un moment donné, donc ça peut être une belle occasion d'essayer d'aller danser aussi avec les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme temps fort, peut-être, que vous verriez? Tous ont leur importance, bien évidemment.
Bah, en tout cas, le gros temps fort du festival, il est sur le 27, 28, 29 novembre, donc là, vraiment, dans les jours qui viennent.
Non, tout proche.
Voilà, on a L'urgence d'agir de Maggie Marin, qui est un film qu'on peut découvrir à la MCC le 27. Le 28, on va retrouver Lila Derich, dont j'ai parlé, avec Anne-Catherine Nicoladze, et puis une danseuse marocaine aussi qui propose un solo, le groupe Nuit qui fait un échauffement du spectateur. Donc ça va être une très belle soirée. Et le 29, là, on a une grande journée avec des temps pour le très jeune public avec Little Caillou, Connie, qui est une danseuse autrichienne qu'on va retrouver avec un musicien à la scène nationale avec Acousmatic Dance Floor, le bal chorégraphié de Denis Plassard, Yann Lereux qui travaille autour de son histoire personnelle avec sa maman qui a eu la maladie d'Alzheimer, enfin qui travaille à partir de mémoires qui s'efface.
De voir son spectacle, son solo, donc à La Réunion justement. Et c'était magnifique.
C'est fabuleux ce spectacle. Je suis très heureuse. Donc venez le découvrir. En plus,
c'est vraiment très beau, très beau, très beau spectacle. Oui, vous avez raison. Il faut absolument venir découvrir tout cela. Peut-être on peut parler un petit peu plus du bal chorégraphique. Comment les choses peuvent se présenter pour ceux et celles qui auraient envie de venir s'aventurer.
Alors Denis Plassard, donc le chorégraphe de ce bal, c'est un des premiers qui a inventé les bals chorégraphiés. Je pense que c'est un chorégraphe lyonnais qui est quand même assez connu. Maintenant. Et il a créé des petites danses, mais très très simples, avec plein de consignes différentes dans lesquelles il est assez facile de rentrer. Il y en a qui sont plus écrites, il y en a qui sont juste des jeux dansés, mais je pense que vraiment, quel que soit votre niveau en danse, vous pouvez venir.
Chacun peut trouver son mode d'entrée.
Voilà, et qu'on passera un super moment. Il y a deux musiciens qui jouent en direct avec lui, qui l'accompagnent, donc ça sera forcément un moment très convivial. C'est un moment qui est gratuit. Voilà, donc vraiment venez danser, venez partager.
Oui, je crois que c'est un moment à ne pas rater, ou en tout cas à vraiment oser venir danser pour vous-même, mais aussi danser avec les autres et découvrir plein de choses. Résonance sur Radio B, à travers la danse, créer des passerelles entre l'art et la vie, dans une ouverture à tous. Résonance reçoit aujourd'hui Émilie Borgo. Alors peut-être on voit Émilie Borgo et on peut aussi les évoquer, vous les avez un tout petit peu évoqués en présentant un petit peu certains temps forts. La scène nationale est là, il y a une grosse présence de
la
MJC. Hein. Donc ça aussi c'est important aussi que ces partenaires-là, burgiens, soient aussi à vos côtés. Et puis il y a des choses qui se passent à Viria aussi également.
Oui, il y a le local à Viria qui nous accompagne cette année. On avait envie de délocaliser une petite partie du festival pour le rendre accessible à tous. On a programmé quelque chose en journée pour permettre aussi à des gens qui peuvent moins sortir le soir de venir voir ce spectacle, et à des scolaires, aux enfants de l'IEM, le Corifé aussi qui est à Viria.
Ça va permettre de toucher encore une autre partie de la population. Donc ça c'est important. Peut-être on peut aussi évoquer Émilie Borgo. C'est pas tout simple aussi aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre bien sûr le travail de la compagnie, ça c'est une chose, mais aussi un événement comme l'irrégulier. Je sais que c'est complexe, que ça a été sur le fil aussi à nombreuses reprises. Peut-être on peut aussi évoquer cette difficulté qui est aujourd'hui, alors il y a de la conjoncture, mais il y a aussi des modes politiques aussi, des résultats de politique aussi qui font que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir tenir, faire émerger aussi des rendez-vous tels que celui-ci.
C'est certain, parce qu'on a des réponses financières de plus en plus tardives. On est de plus en plus sur une modalité d'appel à projet plutôt que d'initiative qui émerge du terrain. Donc nous, se bat pour continuer à exister. Notre président approuverait pour exister dans ce paysage et surtout continuer à proposer de la diversité aussi. Ça nous semble très important. Et c'est vrai que le mode politique actuel qui demande qui va vers de la rente, des questions de rentabilité, peut poser question.
Oui. Puis vous avez raison, vous avez prononcé le mot diversité aujourd'hui. Et c'est aussi de se rendre compte que le monde du vivant, c'est la diversité déjà, et que c'est pas la norme, c'est plutôt la norme, la normalité qui devient anormale à l'heure d'aujourd'hui, et qu'on a tendance à vouloir tout focaliser, à tout rationaliser d'une certaine manière, et qui rend les entreprises, en tout cas les démarches culturelles et artistiques, qui ne sont pas avant tout orientés dans cette vision des choses, pas dans la rationalisation. En tout cas, on change de paramètres lorsqu'on rentre dans ce genre de choses, et qu'on sent qu'il est compliqué d'aller dans ce sens. Et peut-être pour la danse en général, comment vous sentez les choses? Il y a notre territoire, mais dans son aspect un petit peu global, il y a peut-être certainement des échelons différents.
Alors,
mais...
avec les questions de genre qui sont très à la mode, on a une ouverture, on va dire, parce que du coup, on a une vraie ouverture à la diversité, mais qui peut être un peu orientée.
Biaisée aussi.
Voilà, qui peut être biaisée aussi, quand même, il faut le dire. Mais du coup, si en partant de cette question-là, si on la réouvre à toutes les formes de diversité, peut-être qu'il y a des espaces nouveaux qui sont en train de se créer dans le domaine de la danse.
Donc là, c'est peut-être aussi une chance de redonner un éclairage pour aborder toutes ces questions, et donc du coup de retrouver aussi ou laisser une certaine place pour la danse.
Voilà, sur qu'est-ce que serait la norme, qu'est-ce qui échappe à la norme, et à quel moment c'est le fait d'échapper à la norme a un intérêt artistique aussi.
C'est ce qu'on sent, ce que disait tout à l'heure quand je citais Emma Biget, justement quand elle évoquait justement quand on échoue à respecter les conventions, mais du coup elle nous amène ailleurs, elle nous amène à évoquer justement cette multiplicité infinie, cette diversité aussi, cette hétérogénéité des corps, du vivant, et là il y a quelque chose qui me paraît aussi effectivement très, très important. Après, si on revient peut-être un peu à l'échelon un peu du territoire qui est ici, peut-être que le paysage a beaucoup changé aussi, si on regarde dans la présence des compagnies ici,
On a de la chance parce qu'on est plus nombreux aujourd'hui sur le territoire. Là, par exemple, on a notre festival en biennale qui est en alternance avec T'en veux encore du groupe Nuit.
Tout à fait.
On essaye vraiment de s'accorder et de faire ensemble et de créer de la valeur ajoutée plutôt que de la concurrence. Et donc ça, moi, je me dis qu'on... les danseurs sur ce territoire, on est plutôt très chanceux.
Donc ça, c'est bien.
Voilà. Puis on a aussi l'héritage de Christine Burgos et de Gilles du studio des Quatre Vents, qui, je pense, nous ont transmis aussi des vraies valeurs.
Certainement. Voilà. Oui, là aussi, de tissage, de commun. Bon, j'évoquais Édouard Glissant tout à l'heure, mais dans cette philosophie de la relation, qu'elle soit archipélique, qu'elle soit rhizomatique, qu'elle soit, voilà, que du coup, distiller un état d'esprit. Aussi non pas concurrentiel, et ça paraît aussi quelque chose d'extrêmement important, et ça paraît aussi vital aussi pour la danse et son devenir aussi, je pense aussi dans ce territoire.
Absolument, et je pense que c'est une des qualités de ce territoire, parce que c'est pas du tout le cas dans le monde de la danse en général, qui lui aussi est très concurrentiel.
Tout à fait.
Donc voilà, on essaye d'avoir une autre manière de voir les choses, un peu plus horizontale.
Est-ce que vous croyez que d'autres compagnies auraient envie au regard de ce que vous venez d'explorer, c'est-à-dire que du coup on cherche à travailler différemment, on cherche à juste dans de la coopération, de la complémentarité. Est-ce que justement d'insuffler un état d'esprit comme ça, ça inviterait peut-être d'autres à venir vous rejoindre, ou en tout cas à tisser aussi avec ce qui se passe ici?
Possiblement, puis il y a de nouvelles compagnies qui sont arrivées sur le département aussi, et même par exemple à Lyon il y a Chorégraphes Associés, c'est un groupement dont je fais partie, mais qui est aussi un regroupement de chorégraphes et de danseurs sur la question de comment trouver de la ressource et du commun et du soutien entre danseurs. Donc je pense que ce sont des questions qui commencent à émerger.
Voilà, tout ça nous permet de dire que voilà, avoir un événement ici à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, comme l'Irrégulier, c'est vraiment une source, une ressource, voire une pépinière pour un devenir aussi, autour de toutes les questions que nous avons évoquées. Donc, merci, Émilie Burgot, vous voulez rajouter?
Juste dire aussi qu'on a toujours accueilli de jeunes danseurs, et qu'il y a aussi la question de comment permettre à de jeunes danseurs d'émerger sur ce territoire. Et voilà, la MCJC est un maillon indispensable aussi de l'accueil de ces jeunes compagnies. J'espère que ça va continuer.
Oui, espérons qu'ils auront les moyens de pouvoir le poursuivre.
De pouvoir continuer à mettre à disposition cet espace, et que c'est vraiment très très important aussi de pouvoir les accueillir.
Ah, mais complètement, vous avez raison. Et ça ne peut que continuer que si on accompagne les plus jeunes aussi à aller dans ces directions. Voilà, un grand merci, vraiment infiniment, Émilie Burgot, pour cette présence, pour cette conversation. On a été très heureux de vous accueillir dans Résonance. Et puis, voilà, c'est un peu le principe de cette émission, chercher aussi à faire des pas de côté chercher à regarder autrement. Et essayer de se dire aussi, comme la danse peut l'être et comme d'autres pratiques artistiques, c'est, la radio doit être un espace d'inventivité, de rencontre, de création, d'ouvrir des fenêtres différentes. Et puis, comme Annie Lebrun aussi le dit souvent, de pouvoir cultiver le désir de voir l'horizon s'élargir. Et, en tout cas, on aime bien cette vision des choses de ce côté-ci. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir accueillis chez vous. C'est important pour Résonance aussi de savoir que nous sommes accueillis chez les uns, chez les unes et chez les autres. Résonance sera diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Cette émission, vous pouvez la podcaster comme les précédentes sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci encore, à très vite avec Radio B.